Les coqs chantent et jour pareil, tous et debout dans les villages.
Le coq chante. Sayouba Traoré.
Aujourd'hui, nous allons parler d'élevage d'insectes, d'aquaponie et de géoponie. Rassurez-vous, nous allons vous trouver la signification de tous ces mots. Retenez que cela fait partie des nouvelles tendances agricoles. Nous allons au siège de la société Agriconomie, au Kremlin-Bicêtre, dans la banlieue parisienne.
Oui, bonjour, c'est M. Traoré, je suis devant Agriconomie.
Avant de comprendre ce qui explique la reconversion des agriculteurs traditionnels dans cette nouvelle agriculture, nous allons nous intéresser à la société Agriconomie. Avec un nom qui combine l'agriculture et l'économie, donc en conjuguant digital et économie responsable, cette société introduit de nouvelles façons de faire dans le domaine des approvisionnements dans le secteur agricole.
Appel en cours.
Voilà, c'est fait. Ok. D'accord, merci.
Communication.
Oui, bonjour, je suis le journaliste que vous attendez.
Vous pouvez descendre, c'est en bas à gauche, monsieur.
Ok.
L'affaire a commencé en 2014 avec deux jeunes entrepreneurs, Paulin Pascot et Clément Le Fourny. Ils seront bientôt rejoints par un troisième, Ding Nguyen. On a un essor fulgurant de l'informatique. On a une agriculture qui se pose beaucoup de questions sur son avenir. Pourquoi ne pas travailler par ce canal?
Bonjour, je m'appelle Paulin Pascot, je suis un des trois cofondateurs d'Agriconomie, donc une plateforme sur Internet qui permet aux agriculteurs français et européens d'acheter simplement et au meilleur prix tout ce dont ils ont besoin sur leur exploitation agricole.
C'est pour ça que quand je suis rendu à tous ces ordinateurs-là...
Ah oui, on est, je dis souvent, on a un cœur agricole et un poumon technologique. Donc on a un cœur dans les champs et on a un poumon dans les ordinateurs.
Ah, c'est-à-dire que vous avez des techniciens qui sont à même d'apprécier les choses, qui vont voir si les procédés du fabricant sont aux normes, si les produits sont aux normes.
Exactement, on a deux équipes techniques sur la partie agricole, une équipe qui s'occupe vraiment des fournisseurs, des produits et des équipes de techniciens qui eux sont en train d'échanger avec les agriculteurs à longueur de journée au téléphone et par écrit pour les accompagner dans leurs achats.
Bah, c'est vrai que quand je suis dans ma ferme, le mauvais côté de la chose c'est que je suis isolé. Bon, ça c'est l'agriculture qui veut ça et il me faut des intrants agricoles. Et je dépends soit d'une coopérative, soit d'une boutique dans ma région.
Exactement, c'est bien ça. Et nous, l'idée, c'était d'apporter un peu plus de transparence et un peu plus de compétitivité en permettant aux agriculteurs de très vite comparer ce qu'ils souhaitaient acheter, de très vite se renseigner sur un produit, de le commander n'importe quand à 5h du matin, à 3h du matin, à 11h après la traite ou dans le tracteur pendant les travaux agricoles et de le faire en 3 clics avec son téléphone.
Alors on va rester dans le vif du sujet parce que moi j'ai fait le déplacement depuis RFI juste chez vous parce que j'ai vu passer une publication qui parle de nouvelles tendances agricoles. Avec ce que vous venez de me décrire, vous êtes à la jonction de plusieurs mondes, donc vous êtes forcément au courant des évolutions.
Alors oui, on a aujourd'hui plus de 80 000 agriculteurs clients chez Agriconomie et près de 300 000 agriculteurs utilisateurs de la plateforme. Donc on a près de 1 000 agriculteurs au téléphone par jour, donc ça nous permet de bien comprendre les tendances et de voir vraiment ce qui se passe. Et je pourrais citer les nouvelles technologies qui sont en train d'exploser et leur utilisation dans les fermes qui permet d'avoir une meilleure performance économique, une meilleure performance agronomique et même une meilleure performance environnementale pour les agriculteurs. Vous avez des changements de modèle avec des agriculteurs qui vont changer de métier ou rajouter une casquette à leur métier qui était déjà très complexe, mais qui vont se mettre à faire de la vente directe, qui vont se mettre à faire du circuit court, qui vont se mettre à changer les typologies de production dans leur exploitation. Dans les nouveaux modèles, vous avez la culture d'insectes qui arrive. Donc ça, c'est des nouvelles industries qui sont en train de se construire, des nouvelles typologies d'agriculture. Et ce qu'on pense, c'est qu'aujourd'hui, il nous faut en France garder une vraie diversité des agricultures pour améliorer la performance globale de l'agriculture française.
Je vais essayer de comprendre, c'est-à-dire qu'il fallait nourrir les hommes à un moment donné, et il fallait booster la production. On a utilisé toutes sortes de machines, toutes sortes de produits chimiques. En tout cas, il fallait produire. Puis, à un moment donné, on s'est rendu compte que c'est peut-être confortable d'avoir tout sur notre table, mais la façon de produire pose problème. Est-ce que je résume bien ?
Alors oui, il y a des énormes défis en face de nous, en face de l'humanité en général. Comment est-ce qu'on va réussir à nourrir l'ensemble des populations mondiales et les nourrir plus sainement ? Comment est-ce qu'on va réussir à apporter de l'eau douce à tout le monde ? Comment est-ce qu'on va faire pour répondre aux enjeux climatiques ? Et l'agriculture et les agriculteurs et agricultrices du monde jouent un rôle majeur pour trouver des solutions à ces différents enjeux. Donc oui, on va devoir penser notre agriculture différemment. On va devoir valoriser nos agriculteurs et nos agricultrices beaucoup mieux parce qu'ils sont les héros du 21e siècle. Et si on ne se recentre pas sur l'agriculture et sur les agriculteurs et ceux qui font l'agriculture, on n'arrivera pas à répondre aux défis et aux enjeux majeurs auxquels font face les populations du monde entier.
Il y a là deux enjeux majeurs. Et c'est valable pour tout pays. Avec les progrès sociaux, la population mondiale a augmenté. Et pour nourrir tout ce monde, on a utilisé toutes sortes de technologies et toutes sortes de produits chimiques. Puis il est arrivé un moment où les dégâts causés à l'environnement devenaient insoutenables. C'est-à-dire que l'humanité consomme plus de ressources naturelles que la nature peut fournir. Il faut donc réparer ces dégâts et dans le même temps apprendre à produire de façon à ne plus recommencer les mêmes erreurs.
Alors, vous savez, hein, quand on est sorti de la Seconde Guerre mondiale, on avait besoin de produire et de nourrir tout le monde.
Donc, c'est normal parce que tout était bombardé, les gens avaient faim.
Exactement, mais c'est l'agriculture a toujours répondu aux enjeux et à ce qu'on lui demandait. Et si vous reprenez l'histoire de l'agriculture et toutes ces transitions, les agriculteurs et les agricultrices ont toujours fait face aux problématiques qu'on leur pointait du doigt. Et aujourd'hui, les problématiques sont nouvelles. Il y a des sujets environnementaux, il y a une société qui est en train de changer, il y a un consommateur qui souhaite avoir moins de produits phytosanitaires, et l'agriculture, encore une fois, va s'adapter. Ce qu'il faut, c'est, lui laisser le temps, même si aujourd'hui on a de moins en moins de temps, donc il faut qu'on investisse pour trouver des solutions qui vont permettre à l'agriculture de rester aussi performante économiquement, de produire dans de bonnes qualités, de bonnes quantités pour tout le monde, en ayant un respect de l'environnement meilleur.
Moi, j'ai regardé dans vos documents, il y a trois mots qui ont retenu mon attention. Le premier, ça, c'est l'élevage des insectes, la consommation des insectes. Moi, je viens d'un pays où on en consomme. Je connais beaucoup de pays dans le monde où on en consomme.
Voilà, oui, c'est un grand changement. Il y a beaucoup d'investissements depuis maintenant quelques années qui se font sur ce sujet. C'est potentiellement un sujet majeur pour l'avenir, notamment de la nutrition animale et pourquoi pas de la nutrition humaine. C'est que des entreprises créent des unités de production, des usines qui permettent d'élever des insectes riches en protéines, de les transformer en protéines qu'on va pouvoir donner aux animaux. Et là, depuis peu, qu'on pourra rajouter dans les compléments alimentaires en tant que source de protéines et qui vont également utiliser les déjections des insectes pour les valoriser en engrais organiques pour les agriculteurs. Ce sont des productions qui sont beaucoup plus respectueuses de l'environnement si on compare à l'apport énergétique. Donc oui, c'est un enjeu majeur pour l'humanité et ça répond aux différents sujets qu'on a menés. Donc ça va prendre du temps. Vous parliez de l'Afrique, on consomme... c'est nouveau ici. Donc en France, vous avez encore quelques personnes qui disent « Ah, c'est un peu dégueulasse de bouffer un scarabée ou de bouffer une sauterelle ». Mais dans quelques années, ça sera naturel. Et surtout, si c'est au jeu de la farine qui est intégrée dans les aliments qu'on mange au quotidien, ceux qui peuvent avoir un dégoût pour les insectes s'en rendront même plus compte. Et puis, nos vaches ou nos animaux qu'ils mangent de la protéine végétale ou de la protéine d'insecte, bon, je sais pas si, si ça changera grand chose. En tous les cas, c'est beaucoup plus respectueux de l'environnement.
Pour les habitudes alimentaires, je suis bien placé pour en parler parce que moi, je viens d'un pays sahélien. J'arrive en France et on me parle de fruits de mer. Je vous cache pas que dans les fruits de mer, pour moi, il y a des choses qui sont franchement dégueulasses.
Bah, c'est culturel. Hein.
Voilà. C'est culturel. Mais on en prend l'habitude.
Exactement.
Parce que quand moi, je vois... comment ça s'appelle les trucs rouges là, avec 1000 pattes, là.
Oui.
Les crevettes.
Oui.
Je me dis quand même qu'ils ont fui pour aller dans l'eau et on va les chercher. Les escargots...
Les grenouilles.
Celui qu'on ouvre, là, les coquilles Saint-Jacques.
Ouais.
Bah, j'ai du mal à comprendre comment on peut manger ça. Mais je me dis que l'habitude alimentaire, on peut les prendre. C'est un problème d'éducation et d'habitude.
Oui,
bah, comme tout. Hein. Vous savez, tout est une question d'habitude. Donc, quand vous êtes contraint ou qu'on vous... on vous explique les bienfaits de telle ou telle chose, vous pouvez changer vos habitudes au fur et à mesure. Et tout est culturel sur ces sujets alimentaires.
Donc voilà, mettons, voilà, je suis quelque part dans un pays d'Afrique centrale, je vais élever des insectes pour plusieurs usages, soit c'est pour donner à mes volailles, soit c'est pour ma consommation personnelle. Comment je fais techniquement ?
Tout s'adapte, et là c'est pareil pour la production d'insectes, c'est des usines qui sont... qui ont été réfléchis pour favoriser une bonne croissance des insectes et les transformer très rapidement en farine. Donc oui, on arrive à faire tout ça.
Une autre nouvelle tendance agricole, l'aquaponie. Comme toujours, avec ces mots scientifiques, on avance avec prudence. Là, on a le préfixe « aqua » qui renvoie à l'eau. L'aquaponie est un système qui unit la culture de la plante et l'élevage de poissons. Les plantes sont parfois cultivées sous des billes d'argile, pouvant être irriguées en circuit fermé par l'eau provenant d'aquariums où sont élevés les poissons. On marie donc l'aquaculture et la pisciculture.
Vous allez élever des poissons, par exemple, et utiliser les déjections comme fertilisant pour faire des cultures maraîchères, par exemple. Donc vous allez élever... des poissons, des crevettes, ce que vous voulez. Leur déjection, on va les utiliser directement pour aller fertiliser une production. Donc on essaye d'avoir un vase clos où tout est utilisé et tout est valorisé.
Attendez, je veux voir. J'ai un bocal.
Oui.
Il y a des poissons dedans.
Oui.
Et évidemment, ils ont des déjections.
Exactement.
Ça descend au fond.
Oui.
Et cette eau-là, je l'utilise pour arroser mes cultures.
Exactement.
C'est, si on veut le simplifier, c'est un peu comme ça. C'est des modèles qui sont perfectibles, hein, on va les améliorer au fur et à mesure. Mais si vous prenez un peu de hauteur, c'est un modèle qui fait beaucoup de sens. Parce que vous allez, en vase clos, réussir à utiliser des déjections, à produire de l'autre côté, etc. Donc c'est des modèles qui sont très intéressants et qui, je pense, vont continuer à se développer. Surtout si on arrive à avoir des structures qui sont rapidement déployables et à moindre coût.
Mais moi, j'ai déjà vu en riziculture des femmes qui faisaient la riziculture avec des poissons dedans, dans l'eau. Et les déjections de ces poissons fertilisent, par exemple, le riz. Et les poissons mangent les insectes qui viennent sur le riz. En fait, c'est un circuit...
vertueux.
Ah, vous appelez ça vertueux?
Ah, pour moi, c'est un circuit qui est totalement vertueux. Le terme est là.
Donc, elles ont du poisson, elles ont du riz.
La nature a toujours fait ça. Vous avez des économies qui sont majeures en utilisant ces manières de produire.
Je n'achète plus d'engrais, je n'achète plus de fertilisants. Et l'eau du poisson, ça sert à irriguer mes plantes. Et les plantes purifient cette eau que je pourrais réutiliser. Ah, en fait, c'est magnifique, cette affaire.
Ah bah oui, mais vous savez, y a plein de trucs magnifiques. Je pense en plus, vous savez, avec tout ce qui s'est passé avec le Covid... on ne sait jamais s'il faut dire le ou la Covid. Mais avec tout ce qui se passe, on se rend compte que bien se nourrir, avoir des agriculteurs pas loin de chez nous, c'est une vraie force.
Alors, le dernier, bon, c'est pas le dernier, en tout cas dans ma liste, c'est la géoponie. Je sais que géo, ça c'est le sol, ça au moins je le sais. Bon, je vais essayer de comprendre, c'est-à-dire que la géoponie, c'est comment moi je peux produire en respectant la terre, en la travaillant au mieux.
Alors, oui, oui et non. C'est quoi, parce qu'il n'y a pas que la terre qui va permettre à un produit de pousser. Vous pouvez créer en vase clos, dans un conteneur, vous pouvez créer dans une usine, vous pouvez créer dans une serre, vous pouvez créer dans une cave, des conditions qui vont permettre à la plante de pousser.
Des conditions de lumière, je lui fais un puits de lumière, de l'eau.
Exactement, de la chaleur et tout ce qui va permettre à la plante de pousser. Et ça, aujourd'hui, on arrive à imiter un peu la nature pour être en capacité de produire n'importe où, n'importe quel produit. C'est comment est-ce qu'on va réussir à créer des environnements qui permettent à des produits qui aujourd'hui doivent traverser la moitié de la planète ou qui subissent les ravageurs, qui subissent les maladies. Si on arrive à faire pousser certains produits en maîtrisant tous les éléments, on a évidemment moins de produits phytosanitaires, moins de fertilisants, moins d'eau utilisée et moins de gaz à effet de serre lorsqu'on déplace les produits.
En fait, les difficultés que vous voulez résoudre, c'est je produis localement, je produis ce que je veux, de façon saine, que un produit ne fasse pas de milliers de kilomètres avant d'aboutir sur ma table.
Oui, je pense que vous avez bien résumé. Vous avez bien résumé.
Parce que ça sert à rien que le paysan là-bas produise de façon bio, si ça doit faire des kilomètres de bateau pour venir sur ma table.
Vous savez, des fois, on marche sur la tête. C'est lié à plein de choses. C'est lié à l'ultra-mondialisation, c'est lié à plein de choses.
Mais ça, moi, je pense que c'est l'abondance et le développement économique qui veut ça. Si je suis au village en Afrique, je sais qu'il y a telle saison pour les mangues, il y a telle saison pour tel fruit. Je ne veux pas aller demander des mangues en saison sèche.
Oui, mais vous avez peut-être des productions de poulets qui sont faites en Afrique, qui repartent en Chine et qui sont coupés, congelés en Chine et qui sont rachetés, congelés pour l'Afrique. Vous avez des circuits comme ça qui sont complètement fous. Vous avez...
Attendez, je veux voir. J'élève les poulets de façon bio en Afrique.
Oui.
On les envoie en Chine.
On les envoie en Chine.
Ils sont tués, conditionnés, réfrigérés et renvoyés en Afrique.
Et oui. Donc c'est pour vous dire, ça, des exemples comme ça, on pourrait passer la nuit dessus.
Mais c'est de la folie.
Le plus important, c'était de le comprendre. Et aujourd'hui, j'espère que les politiques, les entreprises, les citoyens ont compris qu'on arrive à un moment où on doit changer. Là, on est au pied du mur.
Il est un peu fou, là.
L'homme est fou. S'il n'avait pas été fou, il n'aurait jamais fait tout ce qu'il a fait.
Je vous remercie.
Merci à vous.
Nous étions au siège de la Société Agriconomie au Kremlin-Bicêtre dans la banlieue parisienne. Il était question aujourd'hui de l'élevage des insectes, d'aquaponie et de géoponie, tout ce qui caractérise les nouvelles tendances agricoles. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Eva Piedel, au micro Sayouba Traoré. Pour retrouver cette émission, www.rfi.fr. Pour ceux qui veulent nous écrire, lecoqchante@rfi.fr. Et vous pouvez également consulter notre page Facebook Le Coq Chante. Enfin, si vous aimez cette émission Le Coq Chante, on vous conseille de vous y abonner en recherchant Le Coq Chante dans votre application favorite de podcast. Et si vous voulez nous encourager, mettez-nous 5 étoiles et laissez-nous un commentaire. Demain sur